Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Nouveau point sur l'info avec vous, Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À partir de ce matin, porter un masque à l'extérieur est peut-être obligatoire dans votre commune.
Encouragé par l'État, de plus en plus d'élus locaux renforcent les mesures sanitaires, c'est le cas notamment à Lille et en Mayenne. La disparition inquiétante d'un industriel français parti faire un footing il y a 2 semaines, il n'est jamais rentré. La valse des préfets au cœur de l'été, Emmanuel Macron en profite pour placer ses pions. Et puis le Mont-Saint-Michel, le vieux port à Marseille ou encore la silhouette du Mont Blanc dans votre boîte aux lettres. À l'heure d'internet, la carte postale séduit encore les nostalgiques.
Le nouveau pont de Gênes est inauguré aujourd'hui et en France, où en est-on de l'audit qui devait être fait sur l'état de nos ponts? On posera la question à notre invité à 7h15, le sénateur Hervé Maurey qui a présidé la mission d'information sénatoriale sur la sécurité des ouvrages d'art.
RTL Matin.
Le masque obligatoire à l'intérieur, c'est désormais une évidence. Il va également falloir s'habituer, Alexandre, à le porter de plus en plus à l'extérieur.
Oui, c'est le cas dans une 50aine de villes désormais, hein, notamment des communes du littoral, le Touquet, Concarneau, Quiberon, La Rochelle ou encore Biarritz. Certaines préfectures passent également ce matin à la vitesse supérieure. Dans le Nord, par exemple, le masque est obligatoire dans plusieurs secteurs de la métropole lilloise. Les autorités sont en fait inquiètes d'une recrudescence du virus en Belgique. Situation inquiétante également en Mayenne, où 69 communes imposent désormais de sortir masqué, Mathieu Lepineau.
Et dans les rues de cette petite ville de 4500 habitants, le masque était déjà couramment porté. Alice, 18 ans, n'a pas attendu l'obligation.
Bah, ça change pas grand-chose, parce que du coup, on l'avait déjà souvent. Dès qu'on sort, on met le masque. Bon, des fois, on l'oublie, mais on fait demi-tour et on vient chercher le masque.
Désormais, le masque est donc obligatoire pour 69 communes de la Mayenne, ce qui représente 70% de la population. Il faut dire que le département, en vulnérabilité élevée depuis la deuxième semaine de juillet, compte aujourd'hui entre 15 à 18 clusters. 25 000 tests ont été réalisés sur les 300 000 habitants du département. Pour Florian, obliger le port du masque à l'extérieur est une bonne chose.
Il y a du monde partout, le Covid en Mayenne, il se développe de plus en plus. Faut attention, on a des personnes fragiles dans nos familles. Puis voilà, et comme on dit, vaut mieux vivre masqué que confiné.
La Mayenne est blacklistée en Belgique. Le pays interdit les voyages non essentiels dans le département. Pour Agnès, il s'agit là d'une décision qui stigmatise les Mayennais.
Ils sont focalisés sur la Mayenne. Ah, oh là là, mon Dieu, on ne parle que de ça. La Mayenne, la Mayenne, la Mayenne. C'est pas plus la Mayenne qu'autre chose. Sur les plages et tout ça, faut pas me dire que s'il fallait qu'ils testent tout le monde, il y en aurait aussi.
Si la situation sanitaire ne s'améliore pas en Mayenne, le préfet peut étendre l'obligation du port du masque à tout le département.
Un reportage de Mathieu Lepineau pour RTL. Gérald Darmanin promet des renforts pour lutter contre les trafics de drogue à Lille. Le ministre de l'Intérieur annonce le déploiement de 60 policiers supplémentaires d'ici la fin de l'année pour répondre à une demande de Martine Aubry.
On en vient à cette mystérieuse disparition, la disparition d'un ancien dirigeant de PSA.
Denis Martin a notamment été directeur des ressources humaines. Il avait dû gérer des réductions d'effectifs dans le groupe automobile. Depuis 2018, il a créé sa propre société de conseil. Ses proches n'ont plus de nouvelles depuis plus de 2 semaines à Gatlandais.
Oui, l'ancien dirigeant de PSA n'a plus donné signe de vie depuis le 19 juillet dernier. Il était parti faire un footing à Aubussargues, une petite commune du Gard située au nord de Nîmes où il réside depuis 3 ans avec sa femme et ses 2 fils. C'est eux qui ont alerté la police il y a plus de 2 semaines, ne le voyant pas rentrer de sa séance de sport. Selon nos confrères du Parisien, cet homme de 63 ans avait l'habitude de faire son jogging dans les bois près de chez lui. Mais fait étrange, ce jour-là, il est parti sans prévenir son épouse. Ni prendre ses papiers ou son téléphone portable. Très vite, la gendarmerie diffuse un appel à témoins avec une photo de Denis Martin. Lunettes rondes, cheveux grisonnants, il portait un short noir et un t-shirt bleu électrique lors de sa disparition. Tout le week-end, les inspecteurs ont ratissé la garrigue avec l'aide des voisins et de la famille. Des hélicoptères ont sillonné le ciel, mais en vain. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et la piste du suicide n'est pas écartée par les enquêteurs.
Les précisions signées Agathe Landais pour RTL.
Vous écoutez RTL, il est 7h04, un chantier titanesque en un temps record. L'Italie inaugure aujourd'hui le nouveau pont de Gênes.
Il s'appelle le pont San Giorgio de Saint-Georges, l'un des saints patrons de la ville, construit à la place du viaduc Morandi qui s'était effondré il y a moins de 2 ans, faisant 43 victimes. Pour les autorités, cet ouvrage doit être le symbole d'une Italie qui se relève, qui réussit. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de RTL à Gênes. Le discours du gouvernement italien est difficile à entendre pour les familles des victimes. Elles refusent de se rendre à l'inauguration. Le souvenir est encore trop lourd.
Oui, à travers ses lunettes de soleil, Denise a beaucoup de mal à voir la coupe d'un bateau. Ce que les architectes disent avoir construit avec ce nouveau pont, elle n'y voit plutôt qu'un kilomètre de béton et d'acier. Un monstre d'acier, précise-t-elle, qu'elle a du mal à regarder dans les yeux. Vite submergée par l'émotion, le souvenir des proches qu'elle a perdus est encore trop présent.
Je repense à eux tous les jours, leur voix, leur visage. C'est impossible d'oublier. Je ne repasserai plus ici, voir cette hauteur, 80, 90 mètres, c'est terrifiant.
Elle est vite enlacée par Aiglé, sa belle-sœur, qui lui montre alors le tatouage qu'elle a sur l'avant-bras gauche.
Et les noms de ma famille. Claudia, Camilla, Manuele et Andrea.
C'est le pont de l'orgueil pour plein de gens qui peuvent être fiers de l'avoir construit rapidement. Mais pour nous, c'est le pont de la honte. On a la rage parce que ça aurait pu être évité. On pourra être fiers quand on aura puni les coupables, sans quoi ce pont ne servira jamais à rien.
Il faut dire que les proches des victimes ont été choqués de voir que les autorités italiennes prévoyaient une inauguration en grande pompe. Elles ont donc décidé de ne pas y participer.
Noi abbiamo avuto tante pressioni.
On a subi des pressions pour y être, mais quand on a compris que ça allait ressembler à un carnaval, on leur a dit « Ok, faites ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de dire le nom de nos morts. »
Ma lì sopra non potrete nominare i nostri cari. Questo ponte è nuovo.
On espère que ce nouveau pont a bien été construit, mais on leur a surtout dit souvenez-vous de nos morts, parce que tout part d'eux.
Perché da loro che parte tutto.
Mais la sobriété promise par le président de la République n'aura pas suffi. Les familles se rassembleront ici le 14 août pour inaugurer le mémorial des victimes, où Denise pourra s'abriter non plus à l'ombre du pont, mais des 43 arbres symbolisant les 43 victimes.
Un reportage de l'envoyé spécial en Italie, Vincent Serrano pour RTL.
Et deux ans après le drame de Gênes, où en est la rénovation des ponts chez nous en France? Dans 10 minutes, le sénateur centriste de l'Eure, Hervé Maurey, il a présidé la mission d'information sénatoriale sur la sécurité des ouvrages d'art. C'est l'autre remaniement, celui dont vous n'avez peut-être pas entendu parler. 18 préfets viennent d'être remplacés.
Ouais, les nominations sont passées presque inaperçues mercredi dernier en Conseil des ministres. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le chef de l'État impose sa marque comme ça dans l'administration. L'occasion de rajeunir, de féminiser, mais aussi de récompenser. Pensez les fidèles du président William Galibert.
Oui, dernier exemple en date, Emmanuel Macron vient de nommer l'ancien directeur de sa campagne présidentielle, préfet dans le territoire de Belfort. Ça peut paraître banal, anodin, mais des cas comme celui-là, il y en a des dizaines. 13 préfets nommés en janvier, 18 petits nouveaux installés ces derniers jours, préfets, sous-préfets, directeurs d'administration. À chaque fois, le chef de l'État s'implique personnellement pour les choisir, pour une raison bien précise. Il sait que nommer des fidèles à tous les étages, c'est le seul moyen de s'assurer de la loyauté de son administration. En privé, le président a enragé plus d'une fois, notamment pendant la crise sanitaire, contre les lenteurs et les lourdeurs de l'administration. Alors choisir lui-même ses hommes, c'est être certain que les hauts fonctionnaires appliqueront sans broncher sa politique sur le terrain. Le but, dans les prochains mois, afficher des résultats concrets à présenter aux Français avant de se lancer dans la course pour un deuxième mandat.
Les explications signées William Galibert du service politique de RTL. L'interdiction des terrasses chauffées, c'est finalement pas pour cet hiver, peut-être pour le prochain. La mesure avait pourtant été annoncée en grande pompe à l'issue de la Convention citoyenne sur le climat. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce finalement un délai supplémentaire pour ne pas pénaliser les restaurateurs et les cafetiers déjà durement touchés par la crise du Covid-19.
7h08 sur RTL, il avait été miraculeusement épargné par l'incendie de Notre-Dame, mais avant d'entendre à nouveau résonner le grand orgue, il va falloir être très patient.
Voilà, ce que vous entendez, c'est la toccata de Bach. Hein. C'est le dernier morceau qui a été joué sur le grand orgue avant l'incendie. C'est un nouveau chantier à part entière qui commence dans la restauration de la cathédrale ce matin. Il va falloir démonter un à un les 8000 tuyaux pour un nettoyage approfondi. L'opération débute donc aujourd'hui, Juliette Jay.
Oui, un échafaudage de 30 mètres a été dressé autour de l'orgue. Les 8000 tuyaux vont être démontés un par un. Yves Castagné, organiste de la cathédrale.
Les plus petits font quelques centimètres de hauteur et les plus grands font plus de 10,50 mètres de haut. Et ça, c'est que la tuyauterie. Après, il y a tout l'intérieur de l'orgue, sa structure interne qu'il faut entièrement démonter pour pouvoir ensuite en atelier d'abord le décontaminer et le nettoyer.
L'instrument a été miraculeusement sauvé des flammes, mais il n'est pas intact.
Il a quand même été complètement contaminé par les émanations émanation de plomb et complètement encrassé par la suie de l'incendie. Et donc, il faut absolument lui faire subir une restauration complète et une décontamination complète.
Un chantier extraordinaire pour un instrument qui l'est tout autant.
C'est un des plus grands trésors de cette cathédrale. Et bien entendu, c'est très important que, dès que possible, c'est-à-dire maintenant, on commence à entreprendre sa restauration pour son retour attendu en pleine gloire.
L'objectif, faire résonner l'orgue de nouveau le 16 avril 2024 pour la réouverture du monument.
Un reportage signé Juliette Jay pour RTL.
Face à la concurrence des réseaux sociaux, la carte postale fait de la résistance, Alexandre.
Oui, 7 Français sur 10 en envoient toujours. Selon un sondage OpinionWay, ça fait 150 ans que ça dure. Même si l'exercice, il faut l'avouer, est un petit peu moins familier aujourd'hui, ça permet toujours de garder un souvenir. Et puis les touristes lui sont toujours fidèles, Mickaël Lefebvre.
Dans une rue animée du Vieux-Nice, Albert et Fernanda, originaires de Pontarlier, font tourner un présentoir à carte postale. Et leur choix se porte sur un magnifique point de vue de la baie des Anges.
C'est pour m'envoyer à ma maman, voilà, tout bêtement.
Ouais. Alors, vous allez écrire quoi sur votre petite carte postale?
Aucune idée. Je vais laisser ma compagne écrire. Coucou, un petit bijou du soleil de Nice. Et puis voilà, quoi, un truc tout simple.
Ouais. À quelques pas de là, Émilie et Walid, un jeune couple de Clermont-Ferrand, achètent leur carte pour perpétuer une certaine tradition.
Oui, bah nous, c'est pour ça qu'on l'a acheté, pour montrer à ma fille qu'on envoie des cartes postales, qu'elle prenne après l'habitude de nous envoyer quand elle sera plus grande.
Est-ce que vous allez vraiment l'envoyer ou vous allez la donner en main propre, cette carte postale? Parce que bien souvent, on oublie de l'envoyer.
Non, je pense qu'on va vraiment l'envoyer, du coup.
Vous avez les timbres, vous avez tout ce qu'il faut?
Ah non, on n'a pas encore acheté les timbres.
Trouver des timbres peut en effet parfois s'avérer compliqué. Pascal, marchand de cartes postales, a donc tout prévu.
Nous ici, on a des timbres en stock pour tous les clients. Et après, on leur dit où il y a un endroit pour poster et qu'ils sont juste là à côté.
Car rien ne vaut effectivement ce petit effet de surprise et ce bonheur simple de découvrir une jolie carte postale dans sa boîte aux lettres le matin.
Un reportage de Mickaël Lefebvre à Nice pour RTL.
Tiens, petit sondage, vous envoyez des cartes postales, vous, Marina?
Moi, plus du tout, c'est vrai.
Plus du tout, non. Et vous, Alexandre?
Non, moi, c'est plutôt les petites photos sur Instagram, vous savez, un petit filtre, là. C'est comme ça, c'est la nouvelle génération.
Avec un smiley.
Exactement.
Les cours. Elles ont lieu à Clairefontaine.
Les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 5, le 2, l'As, le 8, le 14, le 11, le 16, le 9 et la dernière minute, c'est l'As, la doigt.
Merci beaucoup, la doigt est bien alors.
Ah oh, c'est super bien.
À tout à l'heure, Alexandre.
À tout à l'heure.
Vous revenez à 8h.